Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et c'est un sujet, Laurent Tessier me le disait à l'instant, qui fait réagir les auditeurs et notamment la réaction de l'Élysée, bien sûr.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera.
C'est la version originale. La voix de 1937, le dessin animé Blanche-Neige. On est donc avec Raphaël et je rappelle que c'est Disney qui a annoncé ce mardi que la jeune comédienne métisse Rachel Zegler incarnerait Blanche-Neige. Je trouve ça intéressant, je trouve ça d'abord parce que Blanche-Neige, qu'elle soit métisse, noire ou blanche, j'ai envie de dire, c'est pas le sujet de Blanche-Neige. Donc, alors évidemment, dans le conte de Grimm, au départ, c'est un conte de Grimm de 1812, évidemment, elle était blanche, mais qu'elle soit blanche ou métisse, c'est pas le sujet, Raphaël.
Non, mais bon, ça fait partie d'un tout. Alors, Disney fait ce qu'il veut, ils ont peut-être besoin de relancer commercialement quelque chose, j'en sais rien. Mais dans le contexte actuel de ce qu'on vit en Europe, etc., j'allais dire que bon, on va pas non plus refaire tout un tas de films, de beaux films d'enfants qui étaient effectivement joués majoritairement par des gens de couleur blanche, par des gens de couleur métisse ou noire, quoi. Je veux dire, il y a certainement bien plus important à faire.
Mais pourquoi pas? Parce que la société, elle a changé. C'est-à-dire que
Malheureusement.
Vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire que vous regrettez qu'il y ait des Noirs en France et des métis en France.
Non, c'est pas ça, pas du tout. Mais bah ce
alors,
qu'il faudrait, c'est que
aujourd'hui, je comprends.
C'est l'inverse. On est en train d'inverser les choses. C'est-à-dire, on dirait que on nous joue l'histoire du très grand méchant colonisateur, etc.
Non, là franchement, c'est pas le cas. Là, en l'espèce, c'est pas le cas. Parfois, moi, je suis vigilant sur ces questions-là. Vous le savez bien. Là, je ne vois pas dans le choix de métis incarné par Rachel Zegler, je ne vois pas que nous devions
une sorte de racisme à l'envers. Je suis désolé.
Non, je vais vous dire, j'y vois tout simplement. Aujourd'hui, il y a plus de noirs et de métis dans les sociétés occidentales. Donc, forcément, ces jeunes gens ont besoin de s'incarner à travers les héros qu'ils voient à la télévision. Les gens également qui dirigent disent attention, il n'y a pas que des blancs qui vont aujourd'hui au cinéma ou qui regardent la télévision. Donc, pensons à mettre dans nos films des héros dans lesquels toute cette jeunesse puisse s'incarner. C'est aussi bête que ça.
Mais comment ça se fait qu'on y pense maintenant ? La société américaine est très largement noire depuis des années, majoritairement, et on y pense maintenant. Pourquoi ?
D'abord, je pense qu'il y a peut-être plus aujourd'hui de noirs, de métis dans la société américaine comme dans la société française qu'il y a 80 ans, et convenez qu'il faut mieux être noir en 2021 aux États-Unis qu'en 1921.
Ah ben bien sûr.
Je vous rappelle que les noirs n'avaient pas le droit de monter dans les bus et de s'asseoir là à côté d'un blanc.
Mais ça, je pense que c'est pas le problème, ça.
Bah, c'est pas le problème.
Le problème, cette actrice, elle a tout le droit de jouer.
Je n'y vois pas la volonté de mettre à genoux l'Occident ou de s'excuser de je ne sais quoi à travers le choix de Blanche-Neige.
Un petit peu quand même, je suis désolé, un petit peu quand même. Mais bon, j'allais dire que c'est pas.
Et je vous assure là-dessus, si c'était le cas, je partagerais pas cette avis. Là, je trouve que c'est tout simplement une bonne idée.
Certainement que Disney a besoin de se relancer aussi commercialement et notamment sur ce film. Bon, pourquoi pas ? Mais ça participe, on ne peut pas dire le contraire, ça participe quand même d'un mouvement.
Ah bah oui,
que l'on connaît
la société
bien.
Change.
Oui. Non, mais
alors
après,
Paola va vous répondre. Paola, parce que Paola, qui est, vous voyez, qui a 14 ans, qui est collégienne, elle écoutait Raphaël. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Paola ? Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Ça tombe bien parce que j'ai un avis assez controversé. Moi, ça me fait pas mal penser au quota instauré aux Oscars pour la catégorie du meilleur film. Donc, ils ont remis leur standard à jour pour mettre en avant les minorités ethniques, les femmes, la communauté LGBTQIA+. Moi, je trouve ça un peu limite dans... C'est un petit peu dommage, limite, d'en faire un débat, parce que, certes, il faut faire quand même des efforts, parce qu'on est dans une société où on avance, où les communautés mises à l'écart ces dernières décennies reviennent en force. Mais comment peut-on autant être surpris par ce choix ? Disney est une énorme... n'aurait jamais pu prendre un aussi gros risque... économique. Enfin, faut quand même faire confiance à Disney. Excusez-moi, je vois pas vraiment de problème, en fait.
J'ai l'impression que vous avez un petit souci, Paola. Donc on va marquer une première pause et peut-être qu'on vous entend mal ou que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour vous exprimer. Donc on va marquer une première pause. Salut Greg Caranoni.
Et bonjour à tous.
Chanter ensemble cette merveilleuse chanson.
Non, arrêtons de chanter à l'antenne, je pense.
Un jour, mon prince. Ah bah non. Mon prince viendra. C'est vraiment l'enfance. Ça. Vous souvenez des Disney que vous voyiez quand vous étiez enfant, le premier par exemple que vous avez vu?
Moi, j'aimais beaucoup les Aristochats.
Formidable, les Aristochats.
Un peu plus tard, Aladdin. Ça, c'est plus ma génération.
Plus tard, oui, c'est plus votre génération.
Quelles étaient les vôtres?
Mais de mon époque, on ressortait. Il y en avait pas des nouveaux en fait. Les Aristochats, c'était un nouveau, mais par exemple Blanche-Neige, c'était un très vieux. Il passait toujours. La Belle et le Clochard. C'était vachement bien, là, quoi. Vachement. C'était très bien, La Belle et le Clochard. Je l'avais vu avec ma cousine. Je me souviens. On avait 10 ans tous les deux.
Les souvenirs, vous aimiez Peter
J'aimais
Pan
bien
aussi
ma cousine, oui. Peter Pan, je ne l'ai pas vu, Peter Pan. 13h09, la
Mais
pause.
Mais Pascal, je parle de Peter Pan parce qu'aujourd'hui, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent 4 places de ciné pour aller voir Wendy, qui est une merveilleuse adaptation des aventures de Peter Pan, justement.
Ah, alors ça,
ça sort aujourd'hui en salle et c'est en partenariat avec RTL.
Peter Pan, il ne veut pas vieillir, je
Exactement.
Crois.
Il se retrouve dans un monde où les enfants ne vieillissent pas, personne ne vieillit.
Oui, ça, c'est parfois, il faut faire attention. 13h09.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir. Blanche-Neige, incarnée par une jeune comédienne métisse, Rachel Zegler.
Un jour, mon prince.
C'est le choix de Disney pour une version filmée d'une célèbre dessin animé sorti en 1937. Est-ce que vous en félicitez? Faut-il plus de diversité? Est-ce une bonne idée, l'avis de Raphaël il y a quelques instants au 3210?
Je veux bien qu'elle soit une bonne idée, mais je voudrais aussi qu'on puisse refaire les films de Whoopi Goldberg avec Catherine Deneuve.
Ouais, Dany ne met pas en doute le talent de la comédienne, mais par définition, Blanche-Neige a la peau très blanche, comme la neige. Après, pas sûr que les enfants fassent le rapprochement, répond Evelyne sur nos réseaux sociaux. Donc bientôt, Lancetienne, on rendra hommage à Martin Luther King avec l'acteur Gérard Jugnot. Et je pense qu'on va trop loin, s'énerve Narf sur la page Facebook de l'émission. Bientôt, le prince sera incarné par un personnage vegan, athée, ne se déplaçant qu'à pied. Les nains, à part des acteurs de taille normale et issus de toutes les minorités, ils ne travailleront plus à la mine, mais seront à la tête d'une multinationale écologique.
Mais il y a une autre polémique sur Blanche-Neige. C'est qu'à la fin, vous savez comment le prince réveille Blanche-Neige.
Il l'embrasse.
Et c'est un baiser non consenti, par définition, puisqu'elle dort. Et elle dort pour toujours, a priori. S'il ne la réveille pas, elle dormirait encore.
Mais ne nous spoiler sur la fin.
Mais oui, parce que c'est un baiser non consenti. Et effectivement, les ligues féministes disent « Attention, vous êtes en train d'introduire, pour des enfants qui regardent ce film, une forme de culture de viol ». C'est ce que disent en tout cas les ligues féministes. Je le répète, c'est un baiser non consenti. On fait juste une parenthèse parce que l'Élysée regrette profondément la décision de l'UEFA de laisser le stade de Munich afficher ce soir les couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT à l'occasion du match Allemagne-Hongrie. C'est un conseiller off, hein, bien sûr, de l'Élysée qui a laissé filtrer cette information. Et parallèlement, l'UEFA défend sa décision, mais par son logo des couleurs arc-en-ciel. Et ça, c'est un communiqué, cette fois, de l'UEFA. On revient donc à Blanche-Neige. On était avec Paola. Paola, tout va bien ?
Tout va bien. Bah, voilà ce qui arrive quand on est laissé seul 3 minutes avec un enfant en bas âge.
Ah oui, donc vous étiez avec un petit enfant en bas âge. Donc, écoutez, merci en tout cas de toujours nous appeler parce que c'est toujours intéressant d'avoir parfois des opinions et des voix les plus jeunes. Et puis, Charlotte est avec nous également, qui est étudiante, qui habite Cannes et qui pouvait peut-être répondre à Raphaël. Bonjour Charlotte.
En fait, en entendant les propos de Raphaël, je me suis empressée de vous contacter. Parce que je suis habituée à répondre souvent dans votre émission. Et là, je trouve ça aberrant qu'une personne ait des propos tels que M. Raphaël l'a eu. Parce que, à savoir que moi, par expérience, en citant un exemple tout bête, je suis animatrice dans des hôtels et j'ai été animatrice dans des centres aérés. Et malheureusement, il y a des petites filles qui se sont senties, entre guillemets, mises à part parce qu'il n'y avait aucune princesse qui leur correspondait physiquement. De par leur ethnie, de par leurs origines, etc. Et je trouve cela très bien que, comme vous l'avez dit, la société avance et que Disney donne la chance à des jeunes actrices telles que celle qui a été élue pour devenir Blanche-Neige dans le prochain film de Disney. Je trouve cela super pour que des petites filles, quand elles regardent le film, elles se disent « Ah, bah elle me ressemble un peu, quoi ».
Ben voilà un excellent argument, Raphaël. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, mais tout à fait. Alors, je n'ai pas dit que c'était un scandale, que ce soit pour les mots ont un sens. J'ai dit que je trouvais.
Oui, enfin, vous avez quand même dit, on va mettre à la place de Whoopi Goldberg. Ce sont des propos quand même très extrêmes que vous dites, monsieur.
Pas du tout sur les propos que j'ai.
Le problème, c'est que, Raphaël, on vous entend mal. Alors, je ne sais pas, on vous entendait bien tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi la ligne passe moins bien actuellement. Donc, je vais laisser Charlotte peut-être développer. On sécurise votre ligne avec Raphaël. Charlotte.
Oui, donc ce que je vous disais, moi ça me plaît énormément le fait que ces petites filles elles puissent s'identifier, parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont, pourtant de Blanche-Neige c'est le tout premier Disney à avoir été réalisé, et malheureusement il y a des enfants qui l'ont vu, d'autres non.
Mais votre argument est excellent. Alors est-ce que la ligne est meilleure avec Raphaël qui est professeur de droit à Clermont-Ferrand? Raphaël, une fois... Non, la ligne n'est pas meilleure, malheureusement. Alors, restez Charles, Charlotte avec nous. Et il y a Charles également, Charles et Charlotte. Charles, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour Charlotte.
Bonjour Charles.
Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a oublié, notre enfance. Quand j'étais enfant, je ne regardais pas à quoi ressemblait l'héroïne. Oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la morale de l'histoire et éventuellement si le héros était sympa, était gentil. Oui. Parce que la gentillesse est une vertu. J'y crois encore. Je suis peut-être un peu enfant dans ma vie d'adulte, mais j'y crois. Et c'est ce qu'on appelle un peu de façon sèche l'empathie. Mais c'est la gentillesse.
Oui, mais sauf Charles, que tous vos héros étaient blancs et que vous êtes blanc. Vous n'entendez pas l'argument. Si vous aviez été noir...
Mais je m'en fichais.
Mais vous n'en savez rien du tout, puisque vos héros étaient blancs. Vous n'en savez rien. Si vous n'aviez eu que... Si vous aviez grandi, par exemple, dans une société à l'époque, par exemple...
Pas forcément.
Vous n'en savez rien.
Pascal. Non, pas forcément. Moi, j'ai souvenir de dessins animés. Alors, c'était forcément du Disney. Mais il y avait des dessins animés dans lesquels les héros étaient de couleur. Je ne sais plus exactement lesquels. J'en ai un notamment, je me souviens, qui était noir et qui était dans... C'était pas dans Goldorak, c'était dans Albator.
Pocahontas, peut-être. Oui.
Il faut se souvenir de ce dont on se fichait et de ce qu'il y avait de l'importance.
Non, mais c'est possible. Alors, on va marquer une pause. On va marquer une nouvelle pause, Charles et Charlotte. Mais bon, c'est vrai en même temps que quand on regardait La Belle et le Clochard, c'était des chiens et les Aristochats, c'était des chats. Et
j'ai autre chose à vous préciser.
Et puis, on ne s'identifiait pas forcément dans un chat. Quoique.
Pourquoi pas?
Quoique, on pouvait. Vous vous souvenez du nom des trois chats dans les Aristochats?
Berlioz.
Oui. Je crois qu'il y a Duchesse.
Il y avait Duchesse.
Alors, Berlioz, Duchesse, et puis.
Il y avait Thomas O'Malley également.
Bien sûr, Thomas O'Malley, c'est le gros chat qui est méchant.
Le matou, le
chat gouttière.
Et je me souviens pas des autres.
Je crois qu'il y a Edgar.
Ah,
aussi.
Il y avait Edgar, bien sûr.
Edgar, c'est le maître de.
Ah oui, mais ce n'est pas un chat, Edgar.
Non, Edgar n'est pas un chat.
C'est le méchant avec la mobilette. Et le sidecar, d'ailleurs.
Essayez de trouver le prénom des
Aristochats. Marie et Toulouse, me souffle Pierre-Louis.
Ah, formidable. Et c'est une chanson d'Henri Salvador aussi. Naturellement, les Aristochats. Vous vous en souvenez pas?
On va la retrouver. Je suis pas sûr que ce soit Henri Salvador.
Si, c'était lui qui chantait pour Disney.
Je suis pas certain.
C'était Monsieur Disney à l'époque. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Aristocrates, ils sont toujours, même quand ils font un petit.
Et alors, c'est Maurice Chevalier.
C'est Maurice Chevalier, ça. Ah oui, ça, c'est. Non, mais c'est la chanson dans le film, ça. Vous avez raison. Charles est donc avec nous et on va terminer sur Blanche-Neige parce qu'on va parler ensuite de l'UEFA pour conclure sur ce sujet.
Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a le révisionnisme historique et puis le révisionnisme qui relève des choses qui n'ont pas trop d'importance. Moi, je ne suis pas pour qu'on déboulonne. Je suis contre le fait de déboulonner la statue de Beaumarchais ou la statue d'un grand héros national ou d'un chef d'État ou de quoi que ce soit, sous prétexte qu'il ait eu des liens divers ou variés avec l'esclavage. Je suis contre. Je suis contre parce que ça consiste à réviser quelque chose qui a existé. Et donc, on est dans la négation de soi et dans la négation de ses propres origines. Là, avec Blanche-Neige, j'allais dire, dont l'héroïne change de couleur entre la version originelle et celle d'aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la morale de l'histoire, c'est le happy end, ça relève du loisir, du divertissement. Et c'est universel, les enfants s'en foutent.
En fait. Ah, sauf que ça a de l'importance peut-être pour les enfants, c'est ça, qui est pour les enfants qui sont noirs. C'est ce que disait tout à l'heure Charlotte. Vous êtes marrant, mais Charlotte, elle est animatrice, elle le disait, c'est un témoignage. Charlotte, répondez à Charles.
Je suis d'accord avec elle sur le fond, mais je ne la crois pas.
Ça en a de l'importance.
Charlotte.
Oui, Pascal, je suis là. Ça en a de l'importance. Ça en a, ça fait 6 ans que je suis animatrice. 6 ans que quand je fais des journées à thème Disney, que je dis, parce que moi je m'occupe d'enfants, pour vous dire Pascal et Charles, je m'occupe d'enfants de 3 à 18 ans. Donc je m'occupe pas que des petits de 3 à 6 ans qui n'en ont rien à faire. J'ai des jeunes filles, des petites filles de 7 à 11 ans qui sont d'une couleur différente d'une princesse. La seule princesse, par exemple, j'ai des jeunes filles métisses ou d'ethnie d'origine africaine ou quoi que ce soit, qui me disent la seule princesse à laquelle elles arrivent à s'habituer, et pas à s'habituer mais à se référer, c'est la princesse dans La Princesse et la Grenouille. C'est la seule princesse. Donc moi, je me dis, si dans un film, surtout que l'actrice, n'exagérons pas, parce que l'actrice n'est pas elle n'est pas métisse. Quand vous la regardez, elle est quand même pas non plus. Elle se rapproche de Blanche-Neige. Moi, quand je la vois, je l'imagine très bien Blanche-Neige, parce qu'elle a un visage qui est familier, qui est assez familial, beau. Donc je suis désolée, mais moi, je suis ravie. Si des petites filles, elles peuvent s'y identifier, et je suis désolée Charles, mais malheureusement les enfants ne pensent pas comme nous, comme vous, elles vont s'y référer, c'est des enfants, donc quand ils vont la voir, ils vont dire je veux être comme elle,
merci.
Veux lui ressembler.
Et bien merci Charlotte et Charles, parce que c'était intéressant, et puis vous, c'était un témoignage du terrain, donc nous concluons, nous fermons la page Blanche-Neige et nous allons passer à l'UEFA qui, vous le savez, a décidé de ne pas retenir l'idée de la mairie de Munich qui était de mettre les couleurs arc-en-ciel sur le stade ce soir de Munich à l'occasion de la rencontre Allemagne-Hongrie. D'ailleurs, l'Élysée a regretté cette décision, mais l'UEFA défend sa décision. Vous allez pouvoir donner votre avis. C'est Jérémy qui nous attend déjà. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent, nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Avez-vous déjà mis une claque, une fessée à votre enfant ? Attention à vous, la loi anti-fessée votée il y a 2 ans stipule que l'éducation doit se faire sans violence physique, psychologique ou verbale. On parle donc des gifles, fessées, mais aussi des humiliations publiques, des cris, du chantage affectif. La Fondation pour l'enfance lance une campagne de sensibilisation. Vincent Denet est le directeur général de la Fondation.
Sur le plan physique, il est clair, les médecins le confirment, que l'enfant vit très mal et peut avoir des répercussions sur le long terme de violences physiques reçues durant la petite enfance. Sur le plan psychologique, ce qui est pénalisant dans la durée, c'est l'éducation basée uniquement sur une violence psychologique.
Propos recueillis par Nicolas Burnand. Donc si je comprends bien, écrit Sylvie sur la page Facebook de l'émission, si on dit à nos enfants, tu ne fais pas tes devoirs, eh bien tu n'iras pas à ton entraînement de foot ou ton cours de danse, c'est interdit, donc pas étonnant que les enfants n'aient plus de repères. Continuez, cher bien-pensant, lance Fred, quand on voit la jeunesse actuelle et la violence, c'est un succès. Pour Elisabeth, une fessée n'a jamais perturbé un enfant. J'ai reçu ma dernière claque à 24 ans pour avoir dit à mon père, tu ne vas pas me faire chier. Fin de citation. Marc en est sûr, on prépare une génération d'enfants mal élevé, l'enfant roi dans toute sa splendeur, soupire Micheline. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces. Selon un projet de rapport des experts climat de l'ONU, la vie sur Terre sera transformée par le dérèglement climatique d'ici 30 ans. Un réchauffement supérieur au seuil d'1,5 degré aurait des impacts irréversibles. Que pouvons-nous faire à notre niveau? Anne Bringot, coordinatrice du réseau Action Climat, était l'invitée de RTL Midi.
Individuellement, peut agir, faire ses propres gestes, ne plus utiliser l'avion, changer de mode de transport, isoler son logement, manger moins de viande et davantage de légumineuses.
Alors, êtes-vous prêt à ne plus prendre l'avion? 32-10.
Non mais c'est formidable d'ailleurs de donner des leçons aux uns et aux autres des leçons de conduite, de ce qu'ils doivent manger, de là où ils doivent aller en vacances. Je trouve ça formidable, moi. À chaque fois que j'entends ces recommandations, je trouve ça formidable parce que je me dis, mais si ces gens avaient le pouvoir, ils me diraient comment manger, quoi manger, à quelle heure partir, est-ce que je dois prendre une voiture ou une voiture à cheval, etc. Mais vous pouvez réagir. Et c'est ça qui est intéressant dans ce débat. L'UEFA, Jérémy, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. L'UEFA donc a refusé l'idée de parer son stade ce soir de Munich aux couleurs LGBT à l'occasion de la rencontre Allemagne-Hongrie. Et c'était une demande des Allemands parce qu'en Hongrie a été votée une loi discriminatoire contre les homosexuels.
Tout à fait, oui. J'ai trouvé cette décision de l'UEFA à sens unique, parce que, comme je disais à votre collaborateur, on se pose la question actuellement, vous avez même fait un débat la semaine dernière sur est-ce que l'équipe de France doit poser le genou à terre pour des causes diverses et variées. Le football se mobilise, et pas qu'à l'occasion des grandes compétitions. Hein. Dans le championnat de France, il y a aussi des journées un petit peu spécifiques. Il y a la journée des Bleuets de France qui rend mémoire à nos soldats morts au front. Il y a la journée justement de la lutte contre l'homophobie avec des maillots, avec des couleurs spécifiques ou des brassards de capitaine spécifiques. J'ai même entendu que l'UEFA a mené une enquête sur le brassard de capitaine d'Emmanuel Neuer, le gardien allemand, parce que justement il avait un brassard de capitaine aux couleurs arc-en-ciel. Mais que l'UEFA se serait rétracté parce que j'imagine qu'entre temps des conseillers ont dû leur dire que pour l'image c'était pas positif. Alors la question c'est de savoir pourquoi ils choisissent leur lutte, en fait. Pourquoi on autoriserait à mettre le genou au sol? Pourquoi on n'autoriserait pas ceci? Ou pourquoi on ne lutterait pas contre cela? Et c'est ça qui est un petit peu perturbant et qui, du coup, pose des questions sur la véracité de leur décision.
Bah, moi, j'ai une petite explication. J'imagine que l'UEFA est ennuyée parce que si elle accepte l'idée que le stade se pare des couleurs LGBT, ça veut dire qu'elle prend position sur une loi hongroise. Et donc là, tu es sur un incident diplomatique. C'est-à-dire que Viktor Orban peut, pourquoi pas, dire ben voilà, nous, on se retire de l'UEFA. Vous n'avez pas à discuter ou à commenter les lois qui sont dans notre pays. C'est les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme dit l'autre. Donc peut-être que l'UEFA, alors sur le genou à terre, elle est moins ennuyée parce que tu n'attaques personne, si j'ose dire, et tu défends une noble cause, le racisme. Est-ce que là, c'est quand même une attaque contre la Hongrie et que l'UEFA a peur de l'incident diplomatique? C'est comme ça que je l'ai interprété.
Oui, je comprends. Et on est dans le même cas de figure où, Pascal, vous êtes certainement au courant de certaines fédérations et certains pays européens qui sont dans la réflexion d'une menace de boycott également pour la Coupe du Monde au Qatar.
Bien sûr.
On va voir dans les mois qui vont précéder la Coupe du Monde. J'ai cru entendre que la Norvège était à deux doigts de se retirer de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et je pense qu'on va être dans les mois à venir sujet à ce type de manifestation contre les décisions gouvernementales du Qatar. Et on va voir dans quel camp va se positionner la FIFA. Mais on a déjà un peu une idée, quoi.
Ce qui est terrible, évidemment, c'est que le combat est juste, bien sûr, de défendre la communauté LGBT. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'UEFA a bien compris quand même le message, puisque à l'instant, je découvre, et c'est Laurent Tessier qui me le dit, que le Twitter de l'UEFA, l'image de profil a été modifiée et que l'UEFA est aux couleurs LGBT. Aux couleurs arc-en-ciel. Donc ça, c'est une chose quand même intéressante.
Voilà. Ouais, ben, c'est peut-être
donc l'UEFA est... Vous voyez, l'UEFA est un peu prisonnière, mais peut-être que mon analyse n'est pas bonne, faudrait savoir, l'UEFA ne le dirait peut-être pas comme ça, hein, de toute façon, mais en tout cas, ça peut être une piste. Merci en tout cas, Jérémy.
Alors, Pascal, oui, si je pouvais me permettre juste de faire une parenthèse de 10 secondes sur le sujet précédent. J'ai vu ces dernières semaines une publication sur les réseaux sociaux qui était intéressante pour résumer un petit peu le débat de Blanche-Neige. C'était, quand j'étais jeune, je regardais la série Friends sans me poser des questions pourquoi il y avait autant de blancs dans la série. De la même manière, je regardais la série Le Prince de Bel-Air sans me poser de questions pourquoi il y avait autant de noirs dans la série. Et j'étais aussi content de regarder l'un que l'autre. sans me poser tout un tas de questions. Et c'est vrai que moi, étant de cette génération-là, j'ai vu Friends, je regardais, je rigolais beaucoup de la série, de Prince de Bel-Air également, et je pense qu'il y avait une légèreté sans l'idée de qu'on nous imposait telle ou telle catégorie sociale ou représentation de couleur de peau. Et peut-être que c'est une évolution de la société ces dernières années de se poser toutes ces questions-là, alors que dans les années 90, début des années 2000, quelqu'un comme moi qui est né en 1982 pouvait regarder les deux séries avec autant de plaisir.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. On va marquer une nouvelle pause à tout de suite.
C'est deux séries qui ne vous parlent pas trop, Pascal. Le générique de Friends, par exemple, c'était ça.
Et... Non, mais c'est vrai que j'ai un problème, moi, avec les séries.
Non, c'est pas un problème.
J'ose pas le dire. Vous savez que la dernière série que j'ai dû voir, c'est Columbo. Donc, mais je vous jure que je ne regarde jamais une série. Donc, je peux pas vous dire. Je ne les connais pas. Je n'ai jamais vu Dr House. Je veux dire,
La Casa des Papels,
sur TF1, Mimi Mati, je n'ai jamais rien vu.
Joséphine Ange Gardien,
tout ça, je n'ai jamais vu ça. Je vous dis Columbo amicalement vôtre, ça a dû s'arrêter
là. Les Feux de l'amour peut-être.
J'ai jamais vu Les Feux de l'amour. Ça, non, mais j'en suis désolé parce qu'à chaque fois on dit regarde les séries, c'est formidable, je regarde et voilà, et c'est trop long. Faut du temps
et vous n'avez pas de temps.
Mais moi, j'aime bien aller au cinéma. Mais c'est pas le problème. À tout à l'heure.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent.
Parlons football, parlons du terrain. Oui. Dans quelques minutes, l'équipe de France peut-elle battre ce soir le Portugal de Cristiano Ronaldo? Coup d'envoi à 21h. Peut-elle terminer première de ce groupe F? Notre consultant Robert Pires était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
C'est comme un parfum de finale.
Bien sûr.
Par rapport à ce qui s'est passé en 2016. Et puis aussi parfum de revanche pour nous. Le Portugal reste une équipe, je trouve, dangereuse. Et puis surtout, ils ont toujours Cristiano Ronaldo qui est vraiment l'atout numéro un côté portugais. C'est une vraie menace pour la France. Même s'il n'a toujours pas marqué contre Hugo Lloris, on va dire.
Le trio d'attaquants qui doit faire trembler l'Europe, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, va-t-il briller? Êtes-vous confiant? Et amis portugais, appelez-nous aussi dès maintenant en 32-10.
On termine avec l'UEFA et Christophe, qui est le conseiller en communication à Paris. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour à vous.
Écoutez, merci d'être avec nous. Vous avez entendu le Twitter de l'UEFA qui s'est paré des couleurs arc-en-ciel. Vous voyez, il y a un entre-deux pour l'UEFA. Il y a un en même temps, si j'ose dire.
Alors, c'est en même temps. Moi, je vous conseille, et je conseille à tous vos auditeurs, pour qu'ils puissent se rendre compte de la crétitude de notre époque, d'aller sur le fil... La crétitude de notre époque.
La crétitude
intellectuelle, la crétitude morale.
De creux, c'est creux, vous dites.
Voilà,
d'accord, c'est un néologisme.
Voilà, un néologisme.
D'accord, la crétitude. D'accord.
La crétitude.
C'est comme la bravitude, la crétitude.
Voilà, la crétitude. Alors, pour se rendre compte de notre crétitude généralisée, je vous suggère d'aller sur le fil Twitter d'Antoine Griezmann.
Bah, je vais y aller, tiens.
Griezmann, qui a eu la grande intelligence de retweeter l'image du stade aux couleurs LGBT, a des commentaires. Alors évidemment, il y a des commentaires qui sont positifs, sympas, dans diverses langues d'ailleurs, et pas forcément qu'en français. Mais alors, celle qui nous caractérise en bon français, je vous en donne quelques-unes pour rigoler.
Bah, faites attention, parce que si c'est infamant diffamatoire sur l'antenne, je veux pas entendre ça.
C'est drôle. Il y en a un qui lui dit « Arrête, wesh, aucun rapport entre le foot et cette... Quand est-ce que tu fais ton coming out? Quand est-ce que tu fais de la politique, Marc Desbuts? »
Non, mais je suis d'accord, Christophe, enfin, mais c'est les réseaux sociaux.
En plein délit. C'est intéressant.
Mais ça a toujours existé, simplement, on ne les entendait pas, on ne les lisait pas, c'est tout.
Je sais bien, c'est ce que disait Umberto Eco sur les réseaux sociaux.
L'époque, elle n'est pas plus creuse qu'avant.
Oui, mais sauf qu'on la voit. C'est-à-dire que malheureusement, avant, elle restait dans les bars. Et comme les bars étaient fermés, il fallait bien que les gens s'expriment. Bon. Non, plus sérieusement...
D'ailleurs, elle est peut-être plus creuse qu'avant, pour te dire.
Ah, mais c'est ce que je pense. En revanche, plus sérieusement, il faut déconnecter. Moi, quand on dit que la réaction est une réaction politique. Marine Le Pen disait ce matin, par exemple, qu'elle n'était pas choquée globalement qu'il n'y ait pas que le stade de Munich soit pas aux couleurs LGBT, se mettant dans la ligne de Viktor Orban. Il faut arrêter tout ça. Moi, je trouve que dans notre époque, on est. Mon ami Jean Dutour disait comme il disait toujours le temps marche dans la merde, entre guillemets. C'est tout ça assez drôle. Mais que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, il y a des réalités. Et moi, je trouve que des mecs comme Antoine Griezmann, quand on voit un peu, il faut aller le dimanche sur regarder les gens qui font du football. Effectivement, on a beaucoup de virilité, beaucoup de choses. C'est formidable, ça. Moi, je ne reproche pas aux hétéros ou aux gays de faire du foot.
Peut être viril et gay.
On peut être viril et gay.
C'est ça qui est drôle, d'ailleurs, dans ce que vous dites. Et comme on peut être viril et gay, c'est pas...
Tout à fait. Et on peut être gay. Viril, gay, et Y, et gay, GI. Oui. Donc je pense qu'il faut qu'on remette un peu de bon sens dans tout ça, qu'on fasse pas de politique. Moi, il faut encourager. Moi, j'encourage vraiment... les sportifs, parce que
Qu'est-ce que vous voulez dire? L'UEFA a raison? Pardonnez-moi, je comprends rien, en fait.
Ah non, mais l'UEFA, si vous n'avez pas compris que j'étais scandalisé...
Vous dites qu'il ne faut pas faire de politique.
Il ne faut pas faire de politique, parce que pour moi, ce n'est pas politique.
Ah bon, c'est quoi alors? C'est pas du foot. Vous êtes scandalisé que l'UEFA ne mette pas le drapeau arc-en-ciel, mais en même temps, vous ne voulez pas que l'UEFA fasse de la politique?
Mais parce que pour moi, ce n'est pas politique.
Ah bon ?
C'est pas politique, c'est sociétal. C'est d'accepter de prendre en compte que dans notre époque, il y a de plus en plus, entre guillemets, de minorités qui sont de moins en moins visibles et qui veulent s'affirmer. Mmh. Et qu'elles s'affirment dans le sport, qu'elles s'affirment dans la chanson, qu'elles s'affirment partout, ne me choque absolument pas.
Eh ben merci,
et je
Christophe.
Trouve que ça aurait été un formidable, envoi de tolérance de faire ce genre de choses. Et je ne dis ça, et je vous dis ça, sans être un chantre de « il faut que tout le monde s'aime, on est tous frères », etc.
Eh ben non. Merci.
Okay.
Merci beaucoup.
Allez,
Christophe.
Allez, bon match à tout le monde.
Ah oui, parce qu'il faut parler du match. Est-ce que Benzema m'a...
Parler du match. Et puis, si vous voulez rire un peu cet après-midi, vraiment, allez sur le fil Twitter d'Antoine Griezmann, parce que vraiment, c'est à crever de bêtises.
Pour rire cet après-midi, il y a les grosses têtes aussi sur RTL.
Oui. Exactement.
Allez, comme
vous avez parlé de Jean Dutour, c'est un historique des grosses têtes jadis, mais là, ce sera Laurent Ruquier, bien évidemment. D'ailleurs, on n'appelle jamais nos amis Sans Fourche et Georges Rowe. Ce serait pas mal de les avoir. Est-ce que Karim Benzema va marquer ce soir? Le dispositif, c'est Silvestro.
Éric Silvestro dès 20h.
Ben moi, je les écoute tous les soirs. Hier, j'ai écouté Giovanni Castaldi qui était là. C'était bien avec Éric Silvestro.
C'est toujours bien.
Bien évidemment.
Quand c'est Christian Olivier, c'est super bien aussi, bien sûr.
Mais Christian Olivier, il est remarquable, bien évidemment. 13h46. On marque une pause et on revient. On va parler des violences éducatives. Parce qu'effectivement, on ne frappe pas un enfant. On essaye de faire passer l'autorité d'une manière différente. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous sommes donc avec Élodie pour les violences éducatives. C'est un sujet qui revient régulièrement au chapitre des auditeurs ont la parole. Et effectivement, vous savez que c'était la loi anti-fessée. C'est la question qu'on posait d'ailleurs tout à l'heure. Avez-vous déjà mis une claque, une fessée à votre enfant? La loi anti-fessée votée il y a 2 ans stipule que l'éducation doit se faire sans violence physique, psychologique ou verbale. Or, on apprend que 36% des pères et mères ne savent pas en quoi consistent les violences éducatives ordinaires. 33% ignorent que ces violences sont interdites. Doit-on nous dire comment éduquer nos enfants? La Fondation pour l'enfance lance une campagne de sensibilisation et c'est pourquoi nous en parlons à l'instant. Nous sommes donc avec Élodie qui est professeure. Bonjour Élodie.
Bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment puisque vous êtes prof en primaire? Est-ce que vous rencontrez parfois des enfants qui sont chez eux ou fessés ou claqués?
Ben oui, malheureusement, je travaille dans un milieu un petit peu difficile, donc ça arrive. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que cette loi, elle soit faite pour mettre en prison des parents qui donnent une fessée parce que la colère a pris le dessus. Je pense qu'il s'agit avant tout de protéger les enfants et de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de violence. Et effectivement, moi, quand je lis si on met pas de fessée, les enfants sont indisciplinés, je comprends pas. Je pense qu'il y a quand même un entre-deux. On n'est pas obligé de mettre des fessées pour avoir de l'autorité. Je le vois d'une part dans mon travail, mais aussi dans ma vie de maman, et même moi en tant qu'enfant, pourtant mon père est quelqu'un que je respecte énormément, qui est militaire, etc. Il ne m'a jamais frappée, pour autant je ne suis pas quelqu'un qui ait fait beaucoup de bêtises. Voilà.
Vous avez combien d'enfants, Élodie ?
J'ai un enfant qui a 6 ans.
Est-ce que jamais vous ne lui avez mis une claque ou une fessée ?
Jamais. Maintenant, je sais bien qu'on est des humains, et je dis pas que ça ne m'arrivera jamais. Et je veux pas condamner les gens, qui ont un excès de colère et ça arrive. Mais je pense que quand ça arrive, il faut tout de suite dire à son enfant, j'aurais pas dû, la colère a pris le dessus, voilà, tu m'as
beaucoup énervé. Ah, ça c'est bien, vous avez raison. Mais il y a d'autres violences, aussi. Il y a les violences psychologiques, il y a les violences, même peut-être les parents s'en rendent pas compte, mais l'humiliation qui peut, être transmise à un enfant avec des remarques blessantes et qui continueront, perdureront la vie durant.
Oui, je trouve que c'est tout aussi grave et je pense que parfois les gens ne se rendent pas compte. Et même quand je lis ça ne m'a pas traumatisé, que ce soit psychologique ou physique. Oui, mais alors déjà, peut-être que ça les a traumatisés, ces gens, mais juste ils ne se rendent pas compte, mais ça a peut-être eu des répercussions sur leur vie. Et de deux, on est tous différents, alors peut-être que eux, ça ne les a pas traumatisés, mais savent-ils quelles conséquences aura sur leur enfant ? Non ? On est tous différents.
Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de... C'est très intéressant, d'ailleurs, j'écoute souvent l'émission de Flavie Flamand, et parfois vous avez des témoignages de personnes qui disent qu'elles ont été traumatisées, alors par les coups, bien sûr, la violence, évidemment, mais les mots qui tuent parfois. Un père, une mère qui dit quelque chose à un enfant de 6 ans, 8 ans. Et là, c'est la responsabilité de chaque parent. Que faire ? On ne peut pas être derrière chaque parent.
Et non, donc c'est pour ça que ça passe par l'éducation aux parents. Mais après...
Ah oui, l'éducation aux parents, vous la faites comment ?
Ben oui.
Comment vous faites pour dire à un père, une mère, sois bienveillante, sois gentille, écoute ton enfant, ne sois pas blessant, donne-lui confiance, etc. En plus, et une fois qu'on a dit ça, on peut en plus se planter complètement. Vous savez ce que c'est ? C'est difficile d'élever des enfants.
C'est très délicat, mais vous savez, dans mon métier, ça m'arrive quand même régulièrement de le faire, parce que je sens que les parents ont besoin de l'entendre, et des fois je leur dis, vous ne pouvez pas dire ça devant votre enfant, attention, ne le comparez pas à ses frères et sœurs. Voilà.
Le comparatif, après, c'est terrible. Vous avez raison, le comparatif, c'est terrible. Ben, merci en tout cas, Élodie. Alain est là, chauffeur routier. Alain, bonjour.
Bonjour, cher Pascal, bonjour à vos auditeurs.
Bon, vous avez combien d'enfants ?
J'en ai eu cinq.
Oh là là. 5. Alors, vous avez 55 ans, vous êtes d'une autre génération d'Élodie.
Absolument.
Bon, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de mettre une claque ou une fessée à vos enfants ?
Un peu, oui, qu'ils en ont pris. Et puis, croyez-moi...
mais c'est pas drôle du tout, excusez-moi.
Bien sûr que c'est drôle, je le dis exprès avec un peu d'humour. Écoutez, Pascal, je ferai en préambule un petit préambule. Quand les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, on leur reproche et on voit ce que ça donne dans les quartiers et aujourd'hui en règle générale partout. Quand les parents s'occupent de leur enfant, on leur reproche d'avoir mis un coup de pompe dans le derrière du gamin ou de lui avoir mis une torgnole quand il l'a mérité. Alors j'ai entendu la jeune femme auparavant qui dit « Bah oui, c'est la colère qui a pris le dessus ». Non, non, madame. Non, non. C'est le gamin qui a fait une connerie et qui, quand il l'est fait à répétition et que les explications ne conviennent plus ou n'ont aucun effet, eh bien entendu, une bonne tarte dans la tête, eh bien, croyez-moi, ça lui remet les idées en place.
Pardonnez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça à l'antenne. De jouer ce rôle de modérateur parce que...
Mais si, un coup de pompe dans le derrière, si vous voulez. Par deux d'entre eux, j'ai été réveillé régulièrement
Alors Alain, on va appeler, restez avec nous parce que vous m'intéressez. Oui. On va appeler Edwige Antier. On va l'appeler, si elle peut nous répondre, Edwige Antier. Parce qu'elle va vous répondre précisément. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, je ne suis pas un professionnel de la fessée. si j'ose dire, un professionnel de la claque. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai eu 4 filles, elles étaient plutôt tranquilles, plutôt gentilles. Je crois pas avoir levé la main sur elles. Bon, alors après, est-ce qu'une claque de temps en temps, c'est ce que vous dites, Alain, c'est pas des violences répétées.
Non, mais non, j'ai jamais martyrisé mes enfants. Nous habitons dans un rayon de 10 kilomètres aujourd'hui l'un des autres. Je m'occupe de leurs 9 petits-enfants.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants, par exemple? Est-ce qu'ils vous disent que vous avez été un bon père?
Ah, je les aime passionnément, alors imaginez
non, ce
le
qui,
retour.
Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous dites, c'est ce qu'ils disent, eux. D'abord, est-ce que vous les voyez tous les 5?
Ah ben, je les vois tous les week-ends, oui.
Bon, vous n'êtes fâché avec aucun?
Oh mon Dieu, non.
Bon, parce que parfois, il y a des enfants qui, ils ont 20 ans et puis ils ne voient plus leurs parents après,
ah,
nous sommes
non,
d'accord.
Non, non,
bon,
non,
est-ce
non,
qu'ils non. parlent parfois des claques ou des fessées qu'ils ont reçues?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Eh bien, quand par exemple, j'ai 9 petits-enfants, il y en a qui sont vraiment des durs de chez durs, eh bien, quand il y en a un qui prend une fessée ou un petit coup de pompe dans le derrière, je vais être modéré également, eh bien, les parents font allusion à l'éducation que ma compagne et moi leur avons donnée, et puis qui aujourd'hui a...
Parce que vous frappez les petits-enfants aussi?
Ah non, j'avais de la vie.
Ah bon, non, les petits-enfants, ils échappent à votre courroux.
Ah ben non, oui, c'est... mais non, vous me faites passer pour ce que je suis.
Mais
pas.
Non, mais je sais pas, je vous parle, vous me dites qu'il y en a qui sont durs, les petits-enfants, donc les petits-enfants,
ah ben,
vous n'y touchez pas.
Mais papy et mamie, ils sont pas là pour mettre des torgnoles ou dire non, papy et mamie.
Torgnoles, c'est des mots qui reviennent des années 70.
C'est rigolo, j'adore ce mot,
torgnoles. Vous parlez comme dans les années 60. Tu vas prendre une torgnole.
Je le fais exprès.
Tu sens le vieux battu.
Non, les grands-parents sont pas là pour faire le travail.
Bon, c'est
parents.
Bien. Bon, voilà. Donc vos enfants, et alors vous avez, sur les 5, il y avait des garçons ou des filles?
Eh ben oui, 4.
4 garçons?
4 garçons, oui.
Bon, mais les filles, la fille, par exemple, vous ne l'avez pas frappée?
Non,
la fille, elle a pas de loin.
Non.
Donc c'est
non.
les garçons.
Ah bah oui.
Mais jusqu'à quel âge, par exemple? Quand ils étaient petits ou parce qu'ou à 15 ans, 16 ans?
Ah non, pas quand ils étaient petits, quand ils avaient 14-15 ans. Oui, 14-15 ans.
Ah oui, c'est
ans,
pas petit, 14-15 ans, excuse-moi.
Ah c'est bah pas non, petit. C'est pas petit. Non, mais quand ils étaient petits, c'était des enfants, point barre.
Bon. Greg Caranoni, qui commence dans l'éducation parentale, qui est, je vous préviens, Greg, ne donnez jamais de leçons à personne sur l'éducation des enfants. Ça peut revenir comme un boomerang. C'est le truc le plus difficile à faire, réussir l'éducation de ses enfants. Et celui qui s'amuse à dire « Ah, vous devriez faire ça. Ah, tu devrais faire ça. Ah, s'il était à moi. » Tu sais, il y a des gens qui disent « S'il était à moi,
mais c'est pas
ça
toi.
Se passerait pas comme ça. » Bon, comment ça se passe avec votre fils?
Écoutez, il a à peine 2 ans et demi et non, moi je lui ai jamais donné de fessée, de gifle ou quoi que ce soit. C'est pas, je ne le conçois pas, mais...
Vous ne le concevez pas.
Pourquoi?
Mais non, parce que la manière dont vous l'avez dit est drôle. Je ne le conçois pas. Personne ne conçoit de taper son enfant. Parfois, non, ça peut.
Oui, mais alors, je n'ai jamais eu d'excès de colère qui m'a emmené à lui donner une fessée ou autre, en tout cas.
Je suis d'accord. On n'est pas violent, ni vous ni moi. Olivier Bois est en train d'entrer. Alors, est-ce qu'Olivier Bois était un enfant battu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été un enfant fessé? Je parle quand vous étiez enfant. Hein Olivier Bois.
Je vous voyais venir, Pascal, ne vous inquiétez pas.
Olivier Bois, est-ce que vous avez... On parle de la claque et des fessées.
Oui, j'ai compris.
Est-ce que vos parents étaient gentils avec vous?
Très gentils.
Jamais de fessées.
Je les embrasse d'ailleurs. Jamais de... Bon, pas qu'ils m'aient traumatisé, en tout cas. Je n'ai pas le souvenir.
Ça, c'est autre chose. Bon, on va appeler Edwige Gentil. Moi, c'est un sujet qui passionne les auditeurs, la fessée et la petite clacounette ou la claque. La claque, c'est humiliant d'ailleurs. La gifle, c'est humiliant. Bon, la fessée, c'est encore autre chose. Il est 13h58, monsieur Caranoni.
Absolument, c'est l'heure de faire une pause.
Bah, c'est l'heure d'entendre le flash de monsieur Bois.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Monsieur Bois.
Et le variant Delta ou variant indien qui représente désormais 9 à 10% des contaminations en France, mais 70% dans les Landes où la situation sanitaire se détériore. Et d'ailleurs, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran se rendront demain matin dans les Landes à Mont-de-Marsan. La jeune militante écologiste Greta Thunberg salue le rapport des experts climat de l'ONU qui, selon elle, permet de regarder la situation en face. Ils sortent donc ce pré-rapport de 4000 pages sur les effets dans les 30 ans à venir du réchauffement climatique. climatique. Le rapport est beaucoup plus alarmiste que les précédents sur l'avènement à court terme de vagues de canicule beaucoup plus fréquentes, sur les risques d'inondations et à terme sur les conditions de survie des êtres vivants. La présidence française regrette profondément la décision de l'UEFA qui a refusé que le stade de Munich soit entièrement illuminé ce soir aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT à l'occasion du match Allemagne-Hongrie. Il s'agissait pour la ville de Munich de protester contre une loi hongroise stigmatisant l'homosexualité. Au-delà des polémiques, le sport, évidemment, à l'Euro, la France affronte le Portugal à Budapest ce soir. Ce sera un RTL Foot spécial Euro dès 20h sur RTL avec toute l'équipe des sports. Rappelons que l'enjeu est de savoir si la France finira première de son groupe, parce que sinon les Bleus ont déjà leur ticket pour les huitièmes de finale. Le quintet à Toulouse, voici l'arrivée provisoire, le 3, le 5, le 9, le 11 et le 15. Le temps de demain ensoleillé sur le nord-ouest jusqu'à La Rochelle et autour de la Méditerranée. Quelques rares averses du sud-ouest à l'Alsace. Les températures 13 à 18 degrés demain matin sur la moitié nord. 17 à 24 degrés dans le sud.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Merci cher Olivier, nous sommes avec Gilles Lazimi qui est médecin, qui est coordinateur de campagne contre les violences éducatives ordinaires. Bonjour monsieur Lazimi.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage d'Alain qui est toujours avec nous. Alain qui a 5 enfants. Et Alain, ses enfants, il a 55 ans, ses enfants sont aujourd'hui adultes puisqu'il a 9 petits-enfants. Et Alain, on voit dans la couleur de sa voix que c'est un père aimant, que la famille est importante pour lui, qu'il est en contact toujours avec ses 5 enfants. Il y a quelque chose qui passe dans sa voix, dans son énergie, et on voit bien qu'il a été un père attentionné. Mais en même temps, il a donné des claques, des fessées, des coups de pied dans le derrière, dit-il. Alain, vous êtes toujours là ?
Oui, bien sûr, Pascal.
Bon, monsieur Lazimi peut-être vous répondre. Comment concilier d'être un père aimant, comme semble l'être Alain, et en même temps d'avoir fait les gestes qu'il a fait, monsieur Lazimi ?
Alors, il les a fait parce qu'il a reproduit ce qu'il a vécu, et on ne va pas lui en tenir grief. 90% des parents sont bienveillants avec leurs enfants et imaginent que ce qu'ils font est pour leur bien parce qu'ils l'ont vécu. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Il y a un siècle, il y a 50 ans, des hommes battaient leurs femmes et pensaient que c'était bien parce qu'à l'époque, ça se faisait. Eh bien, OK, on change, on bouge. Bien sûr, ces enfants ne sont pas morts, et heureusement. Mais ça peut avoir une incidence. Tant mieux s'ils ont peu de problèmes ou pas de problèmes. On peut aujourd'hui changer, et il faut bouger avec son temps. Il y a des gens dans les communications qui disent que les pigeons voyageurs, c'était bien. Moi, je pense que le téléphone, aujourd'hui, c'est mieux. Voilà, on bouge, on avance. Il a fait des choses comme beaucoup de parents. 80% des Français ont donné des claques, des yeux à leurs enfants. Aujourd'hui, on sait que ça peut avoir une incidence. Ça peut, pas pour chez tous les enfants, mais ça peut avoir une incidence sur la santé, sur le développement. Eh ben, OK, changeons. On peut changer et on peut éduquer un enfant avec bienveillance, avec tendresse, avec amour, comme il l'a fait, Alain. Mais on peut en le faire encore mieux, sans violence.
Alain, vous pouvez engager le dialogue avec monsieur Lazimi.
Alors, je voudrais tout de suite préciser à ce monsieur. Alors, je ne vais pas contester ce que vous dites, monsieur Lavigny, parce que j'ai pris des coups de pompe dans le derrière, effectivement. Alors, que je reproduise, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti dans la vie, que je reproduise ce que j'ai vécu, je ne le conteste pas. Oui, certainement. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais, de toute ma vie, levé la main sur ma compagne parce que je ne conçois pas cette chose-là. Elle écoute en ce moment. Je m'appelle Alain Jouan, j'habite à Brinon-sur-Armançon. Je ne cache rien. Non, mais je veux.
Non, voilà, c'était pour faire le parallèle. C'est pour vous faire le parallèle.
Mais ce parallèle,
il y a deux siècles, les gens se tapaient dans la rue, se frappaient, avaient des armes, considéraient que c'était normal. Eh bien, c'était il y a deux siècles. Aujourd'hui, ce n'est plus normal. Frapper une femme, frapper un homme ou frapper un enfant, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on pourrait encore justifier de frapper un enfant alors qu'on ne le justifie pas pour un adulte. Un enfant, c'est l'être le plus faible. C'est l'être qui a le besoin de le plus d'attention. On peut éduquer sans violence. C'est ça qu'il faut entendre. Je ne remets pas en question ce que vous avez fait. Vous êtes un bon père et vous avez fait comme on nous a appris. On n'a pas appris à être parent. C'est difficile, c'est compliqué. Vous avez été formidable avec vos enfants et tant mieux, j'en suis sûr. Mais on peut faire encore mieux, ne pas toucher un enfant.
Je crois, monsieur, également qu'un point est indispensable, c'est de savoir chez les parents qu'un coup, ça fait mal et qu'on n'affaîne pas un coup comme ça gratuitement. Je vais vous livrer, même pas gratuitement.
On ne frappe pas. Il n'y a pas de raison ni de motif.
Je vais également vous livrer une de mes faiblesses. Il m'est arrivé fréquemment de pleurer seul parce que je m'étais mis très en colère. J'ai tellement eu de chagrin de le faire. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé mes enfants passionnément, monsieur. Mes enfants, c'est ma vie. Mes petits-enfants, c'est une partie de ma compagne et de moi-même. Et on a fait ce qu'on a pu. Peut-être dans l'erreur, on n'est pas des parents idéaux. On est tous pas des parents idéaux.
Il nous arrive parfois de sortir de la route. Ok, ça peut arriver. Eh ben, on peut revenir sur la route et vous me dites avec beaucoup d'attention et d'émotion, et je vous en remercie, monsieur, qu'il vous est arrivé après avoir eu un geste de violence, d'être malheureux et d'avoir une émotion. Eh ben, cette émotion, c'est l'émotion que vous aviez quand vous
étiez. Est-ce qu'il faut s'excuser, par exemple,
jamais.
Un parent donne une fessée ou une claque ou pète un câble, comme on dit. Est-ce que le parent doit s'excuser ?
Écoutez, quand on fait une erreur, il est, à mon avis, normal de pouvoir l'expliquer et le dire. S'il m'arrive d'élever la voix trop ou faire une sortie de route, ben je peux expliquer les choses, il n'y a pas de mal. Mais en tous les cas, on peut expliquer pourquoi ce qui s'est passé et pourquoi on n'a pas su se maîtriser. Ce n'est pas perdre l'autorité. L'autorité, il n'est pas question de dire oui à tout un enfant, il faut savoir dire non, être ferme, tout en étant bienveillant, tout en expliquant les choses. Et puis, il faut savoir qu'un enfant de 2 ans, de 6 mois, de 5 ans, de 15 ans, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas expliquer les mêmes choses, on ne peut pas dire les mêmes choses, on ne peut pas avoir les mêmes exigences. Donc, parfois, on peut s'excuser. Tout à l'heure, j'étais avec mon petit-fils, il m'est arrivé de dire un gros mot. Ben, je me suis excusé. Parce que effectivement, l'enfant, je vais l'éduquer par l'exemple. J'ai expliqué à l'enfant que j'avais dit un gros mot, que c'était pas forcément la bonne manière de dire les choses. Ben voilà. Et puis quand on fait une erreur, on recommence pas. On peut le dire, ça ne pose pas de problème. On éduque par l'exemple, et les enfants seront très attachés à vivre cet exemple.
Bah écoutez, merci, et même si on est tous d'accord, Gilles, la chose la plus difficile au monde, c'est d'élever des enfants. Alors là, franchement,
c'est pour ça qu'il faut des écoles de parents.
Mais c'est terrible, les gens
On attend du rapport des 1000 jours que des mesures arrivent pour accompagner les parents avant le début de la grossesse et puis après. Il n'y a rien de plus dur que d'être parent, j'en conviens. Et on peut s'améliorer et on s'améliore toujours.
C'est dur et puis parfois, notamment pour les enfants lorsqu'ils sont très jeunes, ça peut être effectivement entre les cris, entre le bruit, entre
ça peut mettre en rage.
En rage, bien sûr.
En rage, devant un employeur ou un voisin, vous vous mettez pas à lever la main.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que le voisin ou l'employé te plonge parfois dans lequel te plongent des enfants quand ils sont entre 5 et 10 ans et que tu as passé une après-midi avec eux et que ça n'a pas fonctionné comme tu aimerais que ça fonctionne.
Dans une voiture, par exemple,
on a tous des souvenirs comme ça. Parfois, tu as un niveau d'agacement, hélas, qui peut monter fortement.
Mais il vient de loin, ce niveau d'agacement. Il vient de ce que vous étiez enfant.
Ah bon ?
Il vient des souvenirs de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai compris à quel point je pouvais...
Racontez-nous ça, parce que ça, c'est passionnant.
C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à
vous allez le dire après la pause. Tiens, on marque une pause et ça, c'est vraiment très intéressant. Notre niveau d'agacement vient de ce que nous avons vécu quand nous étions nous-mêmes enfants. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Monsieur Lazimi, qui essaye de comprendre nos mécanismes, pourquoi disiez-vous que l'agacement qu'on peut avoir remonte à notre enfance ?
Alors, on est parents avec l'enfant qu'on a été, et je dis ça parce que quand on a ouvert la maison des parents de la ville de Romainville il y a une vingtaine d'années, on a commencé à interroger les parents sur qu'est-ce qui se passait quand ils s'énervaient, quand ils supportaient plus leurs enfants, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, ils levaient la main ou ils hurlaient. Et là, en les aidant à se souvenir de leur vécu d'enfant, hein, en redevenant enfant dans la famille, ils revoyaient des situations qu'il reproduisait inconsciemment. Par exemple, le regard violent du père, les hurlements de la mère. Et ils se revoyaient faire ce que leurs parents leur faisaient. Et c'est comme ça, ainsi, qu'à chaque fois qu'ils étaient excédés, ils respiraient calmement, tranquillement, ils essayaient de penser, et ils pensaient autrement.
C'est terrible parce que nous ne serions que le jouet d'une forme de reproduction inhérente à oui. nous, avec un inconscient. C'est terrible. Souvent, l'histoire de la reproduction, d'ailleurs, notre marge de manœuvre serait aussi limitée que ça ?
Ah, elle n'est pas limitée, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que dès l'instant où on peut y réfléchir, y penser, ben, ça nous fait changer les choses. À un moment donné, je crois qu'Alain disait que ça nous a pas rendu moins fort, ça nous a pas tué. C'est-à-dire que là aussi, inconsciemment, un enfant qui a reçu des coups ne peut pas penser que ses parents lui voulaient du mal. Et donc, il va intégrer que c'est lui qui était mauvais. C'est pas ce qu'il faisait, mais que lui était mauvais et que c'était justifié. Et ça aussi, ça intervient. Et une des premières campagnes qu'on a mis en place avec la Fondation pour l'enfance, il y a maintenant 17 ans, un peu moins de 17 ans, j'exagère, un peu moins une dizaine d'années, c'était la campagne justifier, expliquer que nous reproduisons ce que nous avons vécu. Et la première campagne, c'était pour déculpabiliser les parents, où on voyait une maman donner une gifle à un enfant, et la grand-mère assistant à la scène, au lieu de s'adresser à l'enfant, s'adressait à sa fille, et lui dit « Pardon, pardonne-moi ». Et ça signifiait simplement que la grand-mère s'excusait d'avoir frappé sa fille, puisque aujourd'hui, elle reproduisait.
Alors, monsieur Lazimi, restez avec nous, parce que Mathieu, qui est conducteur d'usine dans l'Aisne, son fils de 5 ans entend à l'école que les parents ne peuvent pas mettre une fessée, et il en profite pour prendre le dessus, nous dit Mathieu. Mathieu, vous êtes avec nous ?
Oui, allô, bonjour Pascal.
Alors vous avez peut-être des questions et puis un témoignage à apporter à monsieur Lazimi.
Oui, tout à fait. En fait, je voulais apporter mon témoignage. Donc en fait, j'ai trois fils, un tout dernier et deux qui se succèdent, 5 et 4 ans. Ce qui est très intéressant déjà, c'est cette manière de... J'entends parler de coups, j'entends parler de choses assez extrêmes finalement. Et déjà, je voulais poser une petite question à partir de quel moment on peut mettre des mesures à ça. Est-ce qu'une fessée ou une punition, mais on va dire un peu light, finalement c'est la même chose que mettre des coups ou des violences? Moi par exemple, j'ai pas vécu de violence. Et pourtant, par rapport à mon fils par exemple, qui a 5 ans et qui a déjà pris conscience que, enfin par rapport à l'école, etc., que moi j'ai pas le droit de lui mettre une fessée. Par contre, lui, par exemple, se prend des droits sur son petit frère, parce que finalement, c'est un peu dans la nature humaine. Hélas, on vient de l'animal et c'est comme ça. Donc
mais
lui...
Il ne se frappe pas, hein, vous savez.
C'est votre perception du monde. Moi, je suis un peu plus darwinien que ça. Mais enfin, bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'il en a déjà conscience. Et il peut jouer de ça. Et en fait, je me demandais jusqu'où il peut en jouer. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a jamais de sanction qui arrive...
Mais Mathieu, quelle est la question, au fond ?
En fait, la question, c'est comment ? En fait, j'entends des choses qui sont assez extrêmes. Oui. On parle de coups, etc.
Je suis d'accord, mais il faut une question, Mathieu. Alors, je laisse Monsieur Lazimi répondre à votre témoignage, simplement. Même si...
Oui. Alors, je vais vous répondre quelque chose, monsieur. À partir de quand frapper un adulte, c'est une violence ? Est-ce qu'une gifle, c'est une violence ? Est-ce qu'une fessée, c'est une violence ? Est-ce qu'un coup de poing, c'est une violence ? On ne se pose pas la question chez un adulte. Chez l'enfant, c'est la même chose. Si vous portez la main sur un enfant, c'est une violence. Il n'y a pas de petite ou de grande violence, il y a des violences. On sait aujourd'hui que éduquer un enfant, c'est pas dresser un animal, c'est pas dresser une bête fauve. Donc les frapper, ça va induire des phénomènes de stress et ça va induire
monsieur
la relation
Lazimi,
à l'enfant. Oui. Ça va modifier la relation à l'enfant. Donc c'est important d'avoir cette notion-là. Deux, on peut discuter. On peut encourager, on peut jouer, on peut, être dans une relation bienveillante avec un enfant et l'éduquer, et savoir lui dire non. Je veux dire, votre enfant, il a 5 ans, tout dépend de ce qui s'est passé un peu avant. S'il y a des difficultés relationnelles avec l'enfant, il y a d'autres moyens que les coups pour les régler. Et ça vaut le coup, éventuellement, on peut être aidé. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, avec une maison des parents, avec un psychologue, pour voir comment on peut fonctionner autrement et pour voir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors il y a aussi autre chose, il y a des âges où il y a forcément, on a l'impression que l'enfant ne nous regarde pas. Il explore, il s'aventure dans la vie.
Oui, c'est dur hein, parfois, mais c'est dur. Les ados...
Clairement,
moi, je vois, par exemple, j'entends beaucoup de c'est, là encore, les garçons, c'est différent des filles. Hein, quand vous avez parfois deux ou trois garçons.
Parce qu'on les éduque autrement.
Oui, mais c'est dur parfois.
C'est ça le problème.
C'est dur. Hein, c'est... Par exemple, en même temps que vous parliez, je pensais que les frères, les uns les autres, les frères qui ont 12 ans, 14 ans, parfois ils se tapent dessus. Vous êtes marrant. Ils se tapent dessus, ils se tapent. Et puis ils s'aiment. Et puis, deux heures plus tard, ils se font des câlins. Mais entre-temps, ils se sont tapés dessus. Donc c'est compliqué. Oui, alors, et alors ça rend fou un parent. Hein. Quand vous voyez vos enfants se taper dessus, vous ne savez plus quoi faire. Quoi, parce que vous, d'abord, vous culpabilisez. Aussi. Vous dites c'est de ma faute. Ça. Tout ça est dur. Quoi.
C'est dur, mais on peut changer les choses tant qu'on peut parler, tant qu'on peut être dans
le dialogue,
tant qu'on
est
dans
d'accord.
l'amour, dans l'affection, dans la bienveillance. Je vous assure que les choses changent.
Je suis d'accord, je suis d'accord.
Quand on change la relation, que la relation n'est plus des hurlements ou des cris.
Je suis d'accord, mais même dans l'amour, même dans la bienveillance, même quand a priori tu te dis ça va bien, ils se tapent quand même dessus. Donc tu te dis, mais alors parfois t'as envie de dire bon bah ils se feront des câlins dans deux heures et c'est aussi la vie des frères, c'est compliqué hein, les frères, les filles c'est différent peut-être. Il est 14h19 et nous marquons une pause.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il reste juste une petite minute peut-être pour conclure sur ce sujet. D'abord, remercier monsieur Lazimi et puis peut-être donner la parole à Fabienne qui nous écoutait en Saône-et-Loire et qui peut peut-être proposer une petite synthèse de ce que nous avons dit. Bonjour Fabienne.
Bonjour Pascal. Moi, je voudrais revenir sur ce que monsieur Lavigny a dit concernant l'incidence positive. Alors l'incidence positive, elle est effectivement quand vous avez mis une fessée à un gamin parce qu'il vous a enquiquiné je ne sais pas combien de fois et qu'il a fait quelque chose qui a mis sa vie en danger, l'incidence positive, c'est qu'il ne recommencera pas. Voilà. Pardonnez-moi.
Je vous en prie.
Concernant le fait des fessées, moi j'ai eu trois enfants qui ont pris des fessées, ils en ont pris une chacune, parce qu'effectivement, ils ont mis leur vie en danger. Et ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est que le fait qu'on aille dans la vie des parents à savoir ce qu'il faut qu'ils fassent, leur éducation, on est intrusif. Et ça me gêne beaucoup. Il y a une différence entre mettre une fessée à un gamin qui a fait une grosse bêtise et des violences communes où on voit un enfant maltraité.
Eh ben merci Fabienne, c'est l'heure du débrief. Malheureusement, effectivement, on ne peut pas donner davantage de temps à ce que vous disiez, mais on pourra poursuivre, pourquoi pas, la conversation demain. L'heure du débrief à 14h23.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le sujet qui vous a fait réagir aujourd'hui. Blanche-Neige, incarnée par une jeune comédienne métisse, Rachel Zegler.
Un jour, mon prince viendra.
C'est le choix de Disney pour une version filmée du célèbre dessin animé sorti en 1937. Est-ce une bonne idée? L'avis de Raphaël au 32-10.
Je veux bien qu'elle soit une bonne idée, mais je voudrais aussi qu'on puisse refaire les films de Whoopi Goldberg avec Catherine Deneuve.
Nous sommes de ça, Julien.
Et Raphaël ne s'arrête pas là.
On va pas non plus refaire de beaux films d'enfants qui étaient effectivement joués majoritairement par des gens de couleur blanche, par des gens de couleur métis ou noir, quoi, je veux dire.
Un avis que ne partage pas Charlotte, animatrice dans des hôtels. Elle nous racontait ce que lui disaient les enfants.
Et malheureusement, il y a des petites filles qui se sont senties, entre guillemets, mises à part parce qu'il n'y avait aucune princesse qui leur correspondait physiquement. Et je trouve cela très bien que, comme vous l'avez dit, la société avance pour que des petites filles, quand elles regardent le film, elles se disent « Ah, bah elle me ressemble un peu, quoi ».
Et qu'en pense Charles au standard ?
On a oublié notre enfance. Quand j'étais enfant, je ne regardais pas à quoi ressemblait l'héroïne. Oui. Les enfants s'en foutent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la morale de l'histoire, éventuellement si le héros était sympa, était gentil.
Et forcément, quand on parle de Blanche-Neige, vous avez envie de chanter, Pascal.
Salut Greg Caradoni.
Et bonjour à tous.
Chanter ensemble cette merveilleuse chanson.
Non, arrêtons de chanter à l'antenne, je pense.
Un jour, mon prince. Ah bah non. Mon prince viendra.
Bon, ça n'a pas marché avec Greg, mais il y a quelques semaines, Pascal, vous aviez partagé un duo avec Monique.
Un jour mon prince.
Non, non, ça c'est pas bon, ça, c'est pas ça. C'est un jour mon prince viendra, un jour il me dira. Oh, c'est magnifique ça.
Autre sujet qui vous a fait réagir au standard, avez-vous déjà mis une claque, une fessée à votre enfant? La loi anti-fessée, il y a 2 ans, stipule que l'éducation doit se faire sans violence physique, psychologique ou verbale. Alain a déjà donné des claques à ses enfants. Il a pu échanger avec le docteur Gilles Lazimi.
Il n'y a pas de raison ni de motif.
Je vais également vous livrer une de mes faiblesses. Il m'est arrivé fréquemment de pleurer seul parce que je m'étais mis très en colère. J'ai tellement eu de chagrin de le faire. Aujourd'hui, j'ai toujours aimé mes enfants passionnément, mes enfants, c'est ma vie.
Des avis partagés, des vécus différents et une moralité.
La chose la plus difficile au monde, c'est d'élever des enfants.
Ouais, surtout quand c'est l'heure de dîner. Ben oui, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson pour les mamans.
Maman, tu es la plus belle
du monde.
Vous êtes monté haut là.
Et aller sur la tombe de Luis Mariano, il est enterré à Guétari. J'y vais chaque année. Il est enterré à Arcang d'ailleurs, peut-être. Parce que sa tombe est toujours fleurie. Vous connaissez Arcang dans le sud-ouest. Il avait écrit une chanson merveilleuse. Arcang, Guétari. Bon. Luis Mariano, écoutez Luis Mariano, le prince de Madrid. Il était au Châtelet. Merveilleux, Luis Mariano.
Écoutons-le alors.
J'ai vu des paysans. Flavie Flamand dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole.